La Fabrique à podcast du lycée Hilaire de Chardonnay vous propose, en partenariat avec Radio Prévert, Elle se branche où, la prise de conscience ? Présenté par Lucas Gandros Fernandez.
Bonjour, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro de la Fabrique à podcast. Là, on se demande, mais elle se branche où, la prise de conscience? Malgré les dernières mesures de confinement, nous avons décidé de rester mobilisés et de vous présenter cette émission, émission d'une demi-heure environ, avec des chroniqueurs et invités fantastiques où l'on balaye pour le grand ménage du printemps un sujet qui fait l'actualité. Aujourd'hui, ils sont verts. Et je ne parle bien sûr pas des martiens, mais bien du thème de notre émission, l'écologie. Ah ben ça, ils l'ont dans le sang. Hein. Et pour traiter ce sujet de la meilleure des façons, nous accueillerons nos garants écologiques, nos sauveurs de planète. Eux aussi, ils l'ont dans le sang, l'écologie. Je parle bien entendu d'une de nos éco-déléguées, Elisa, ainsi que Monsieur Schulz, professeur de SVT au lycée Hilaire de Chardonnay, mais pas que, vous verrez. Elle, pour illustrer notre thème du jour, elle nous brosse à merveille le portrait d'une figure écologique mythique, presque mystique, et elle l'est tout autant. J'ai nommé Noémie Leduc. Alors bonjour Noémie,
bonjour,
de
Lucas.
Qui nous parles-tu aujourd'hui?
Vous parler de Greta Thunberg, qui est une jeune militante écologique qui lutte contre le réchauffement climatique.
Pour nous, elles sont allées interviewer une association basée à Chalon et se sont intéressées de plus près à la journée du 27 mars, un jour où beaucoup de monuments ont éteint leur lumière. C'est Gianna Tertour et Emma Alazard qui nous expliqueront pourquoi tout à l'heure.
L'écologie, un effet de mode ou une réelle nécessité? Si vous voulez laisser un impact positif à la planète et non une cicatrice, écoutez notre podcast pour découvrir comment vous pouvez agir à votre échelle.
Ce sera tout à l'heure. Et puis, pour terminer cette émission, c'est une réelle artiste qui nous rejoindra. Elle est dès à présent avec nous pour nous vendre sa chronique. C'est Laurine Berceau qui joue les apprentis chimistes et mélange l'art à l'écologie.
Alors bonjour Lucas.
Bonjour.
Bah oui, comme tu l'as très bien dit, je vais vous parler de l'écologie du point de vue de l'art, avec notamment une pièce de théâtre pour laquelle j'ai pu avoir l'autorisation de l'auteur afin de la citer dans cette émission. Et du coup, bah, on la découvrira tous ensemble tout à l'heure.
Eh ben on a hâte. Pour l'heure, il est temps de retrouver nos trois invités.
L'interview de Lucas Gandros Fernandez.
Et oui, je le disais en début d'émission, aujourd'hui on reçoit une éco-déléguée, qui ne l'est pas vraiment, elle va nous l'expliquer, Elisa, élève de première, membre du CVL, du CA, et participante à l'élaboration du projet de l'établissement, et puis Monsieur Schulz, enseignant de SVT, occupant également diverses fonctions administratives au lycée Hilaire de Chardonnay, parmi elles responsable du laboratoire de SVT, responsable TICE, technologie de l'information et de la communication électronique, et responsable de l'éducation au développement durable. Alors, je me tourne d'abord vers toi, Elisa. Même si je sais que tu n'es pas vraiment éco-déléguée, comment s'est passée ton élection? Explique-nous tout ça.
Exactement. Je ne suis pas proprement dit éco-déléguée. Je fais surtout le lien entre les éco-délégués, le CVL dont je suis membre et le projet d'établissement. Le nombre de candidats était très, très faible, donc tous les volontaires ont été acceptés et ouais, je pense qu'elle n'est pas assez connue. Je pense que c'est dû au fait que leur rôle n'est pas clair, qu'il n'est pas établi, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de cadre. Après tout, éco-délégué, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui représente l'écologie, certes, mais quand, comment et où, en fait? Et comment faut-il trouver? Encore faut-il trouver des projets, pardon, et des volontaires pour mener à bien les missions.
Eh bien, en parlant de mission, Monsieur Schulz, sauver la planète, c'est important, mais à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Des choses, des missions concrètes?
Je pense qu'il existe de très nombreuses solutions qui sont assez bien connues. Par exemple, réduire notre consommation de viande, utiliser le moins possible les transports motorisés, effectivement, donc par exemple venir à vélo ou à pied, moins prendre l'avion. Voilà, les solutions, elles sont multiples et on les connaît assez bien.
Et vous appliquez ces mesures?
Dans ma vie personnelle,
oui,
j'en
voilà.
Applique certaines, mais
oui.
Je pense qu'on est tous un petit peu schizophrènes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on applique certaines choses et puis il y en a d'autres qu'on préfère ignorer.
Bon,
par exemple, effectivement, je me déplace beaucoup à vélo. J'essaie de réduire un peu ma consommation de viande, sans être végétarien pour autant. Mmh. Mais par exemple, j'ai pas mal pris l'avion ces dernières années pour faire un certain nombre de voyages. J'ai aussi des collègues qui sont beaucoup dans la politique du zéro déchet, bien plus avancés que moi. Voilà, moi, j'en suis pas encore là. Voilà, donc on fait ce qu'on peut à notre échelle individuelle.
Alors, mercredi 3 février, vous avez été reçu en visioconférence par la rectrice de Dijon, Madame Albert Moretti, et par la députée chargée d'une mission temporaire consacrée à l'éducation au développement durable et ancienne secrétaire d'État à la transition écologique, Madame Poirson, dans le but de faire un point sur ce qui se faisait en matière d'éco-délégués dans le rectorat. Vous avez donc pu présenter les actions du lycée, on y reviendra, mais avant tout, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette réunion, Elisa ?
L'intervention des éco-délégués dans le lycée, ou dans, je n'ai plus le nom exact, mais dans leur pays, en fait, je ne pense pas que l'écologie et le développement durable soient leur priorité absolue, mais pourtant, les jeunes, c'était des élèves de première, et ben, ils prenaient très à cœur le sujet, et ils prenaient leurs responsabilités, et c'était très, très beau à voir.
Et oui, c'est vrai que le Liban vit une situation compliquée en ce moment. On se souvient de cette explosion qui s'est produite au port de Beyrouth en 2020, le 4 août, qui a fait 207 morts, hein, je le rappelle. Ça, c'est vrai que ça devait être très, très, très émouvant d'écouter ces jeunes. Monsieur Schulz, quelque chose à ajouter ?
C'est pas très bien quoi vous dire par rapport à ça. C'est évidemment un processus qui relève autant de la politique et d'une certaine mise en scène théâtralisée que d'un vrai véritable échange, mais ça fait partie du jeu et c'est pas choquant en soi.
Revenons maintenant, si vous le voulez bien, de manière plus locale, hein, disons au sein de l'établissement. On parlait des actions du lycée. Alors quelles actions, quelles mesures sont à l'heure actuelle en place? Quelles mesures aimeriez-vous mettre en place et quels projets sont en cours concernant le domaine de l'écologie, même si on sait qu'avec cette période sanitaire bien particulière, les projets sont compliqués à mettre en œuvre?
Alors, on a essentiellement des actions qui sont évidemment du domaine éducatif, c'est-à-dire qui n'ont pas un impact énorme en elles-mêmes sur, par exemple, notre production de gaz à effet de serre ou notre impact sur la biodiversité, mais qui sont plutôt là pour éduquer l'environnement au développement durable. Et d'ailleurs, on peut rebondir un petit peu sur ce qui était dit auparavant sur les choses qu'on peut faire à notre échelle. Il faut bien voir que même si on devient des assets du développement durable et qu'on décide à notre échelle individuelle de faire un maximum de choses, ça ne sera pas suffisant. Il y a à peu près 50% par exemple des émissions de gaz à effet de serre qui sont du ressort du collectif et donc c'est un sujet éminemment politique. Pour revenir à l'échelle du lycée en termes d'action, on a pas mal de choses. Par exemple, on a essayé de mettre en place les années précédentes un meilleur tri des déchets avec le recyclage du papier, avec un déshydrateur pour les restes organiques du restaurant scolaire, un composteur. On a également mis en place un jardin pédagogique avec une zone favorable aux insectes pollinisateurs, des variétés anciennes d'arbres fruitiers. Voilà, puis on essaie de faire différentes actions. Ça peut être des conférences sur la biodiversité, ça peut être des sorties scolaires, par exemple la visite du centre de tri, de méthanisation et d'enfouissement des déchets à Chagny.
Elisa ?
Depuis 2019, le lycée détient le label Éco-lycée niveau 2, notamment grâce à de nombreuses actions mises en place il y a des années déjà, donc la mise en place d'un meilleur tri des déchets, d'un déshydrateur pour les restes organiques du self, l'implantation d'un composteur et d'un jardin pédagogique, des conférences régulières sur la crise climatique actuelle mises en place et menées par les professeurs, l'action du club Solidarité, la présence d'alternatives végétariennes, etc. Et nous souhaitons quand même voir ces actions poursuivies et complétées, notamment par une valorisation des missions des éco-délégués, pour encourager justement la participation très faible des élèves aujourd'hui, l'intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'installation d'un récupérateur de pluie, etc. Et tu parlais des projets en cours, et bien justement je crois savoir que dans le club Solidarité, actuellement, ils sont en train de produire des produits sanitaires et phytosanitaires zéro déchet. Mais justement, comme tu l'as dit déjà avec le confinement, c'est pas simple de mener ces actions, mais encore moins en temps normal puisque nous n'avons pas de cadre d'heures dans l'emploi du temps libéré pour l'ensemble des élèves pour mener concrètement ces actions.
Bon, tout ça est sur des niveaux très divers. Certaines choses sont des obligations légales, par exemple en termes de restauration scolaire. D'autres sont vraiment des choix d'établissement.
Monsieur Schulz, est-ce que vous pourriez nous parler de ce club jardin, de ce club développement durable, parce qu'on en entend vaguement parler, mais qu'est-ce que c'est, à qui il est ouvert, expliquez-nous.
Alors c'est à la fois un but en soi et un prétexte. Un but en soi parce que c'est agréable d'être à l'extérieur avec un petit groupe d'élèves, de pouvoir jardiner, planter des choses, éventuellement consommer le résultat de la modeste production qu'on peut avoir sur ce jardin, et puis participer à un certain embellissement, à une certaine biodiversité. Et puis c'est un prétexte parce que ça donne aussi l'occasion de discuter environnement, biodiversité, développement durable, etc., de façon très concrète avec des exemples. Je vais prendre un point particulier. Par exemple, dans le programme de SVT, on parle des sols et on parle beaucoup du rôle des décomposeurs et du recyclage de la matière organique. Observer un composteur, c'est quelque chose de très concret qui permet d'aborder ces points, par exemple.
Et puis donc, pour terminer cet entretien, j'aimerais vous poser une petite question. Comment vous est venu le déclic écologique, c'est peut-être un processus ou autre chose? Expliquez-nous, Elisa.
Pas vraiment un déclic écologique, plus un processus, comme tu l'as dit, et plutôt l'envie d'intensifier mes efforts, nos efforts, et de sensibiliser avec de nombreux projets et justement donc de prendre part à ces projets au sein du lycée notamment.
Monsieur Schulz ?
Je pense que c'est très vieux, je pense que comme tout le monde, je suis le résultat d'une éducation, d'une culture familiale, donc de même que les opinions politiques sont extrêmement familiales, je pense que l'intérêt pour l'écologie, c'est quelque chose qui vient de mes parents, entre autres. Mais après, il y a peut-être certains jalons qui peuvent être signalés, comme par exemple le fait de faire des études de sciences. Je pense que quand on s'intéresse aux sciences de la vie et de la Terre, forcément, on est sensible à l'écologie, ou alors c'est qu'on n'a vraiment rien compris. Et puis après, de manière plus récente, il y a des lectures, il y a des informations, il y a la prise de conscience que nous sommes entrés dans l'Anthropocène, que la crise climatique est de plus en plus urgente et pourtant de plus en plus ignorée par les décideurs politiques et économiques. Il y a un certain nombre de choses qui viennent renforcer ces convictions-là.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Plaisir. Elle se branche où, la prise de conscience? Ça continue juste après ça.
Elle se branche où, la prise de conscience? La chronique de Noémie Leduc.
Et Noémie Leduc vient de nous rejoindre virtuellement pour nous parler d'une personnalité, vous le savez, mythique, presque mystique de l'écologie. C'est Greta Thunberg, elle nous en dresse le portrait.
Greta Thunberg est une jeune Suédoise née le 3 janvier 2003. C'est une militante écologique qui lutte contre le réchauffement climatique. Tout commence en août 2018 où, du haut de ses 15 ans, elle va aller contester les actions du Parlement suédois contre leurs inactions face au réchauffement climatique. Puis, en novembre 2018, suite à son discours à la conférence de Katowice sur les changements climatiques, elle lance un mouvement de grève pour le climat qui se propagera dans le monde entier. En 2019, Greta Thunberg participe au Conseil de l'ONU. Durant son discours, elle demandera ceci aux politiques. How dare you? How dare you? Grâce à ses actions, elle reçoit plusieurs prix et distinctions, comme par exemple, en mai 2019, le journal Times la nomme personnalité de l'année, ou encore dans le magazine Forbes, où elle fait partie des 100 femmes les plus influentes au monde.
How dare you? Merci Noémie pour cette chronique très complète. Une chronique très complète, elle aussi se prépare, c'est juste après un petit jingle.
La Fabrique à podcast du lycée Hilaire de Chardonnay vous propose la chronique de Gianna Tertour et Emma Alazar.
Elle se branche où, la prise de conscience continue avec Gianna Tertour, Emma Alazar qui nous rejoignent à distance bien sûr pour nous parler de l'Earth Hour, un jour où il faut éteindre les lumières. C'était le 27 mars.
L'Earth Hour, plus couramment appelé « Une heure pour la planète » est un événement mondial
qui se déroule chaque année le dernier samedi du mois de mars à 20h30 heure locale. Elle consiste à éteindre les lumières de nos monuments les plus emblématiques, comme la Tour Eiffel, les pyramides d'Égypte ou encore l'Empire State Building à New York. Elle est organisée par l'ONG Worldwide Fund for Nature, qui est engagée pour la protection de l'environnement et du développement durable depuis 1961, et par le Sydney Morning Herald, qui est un grand quotidien australien. En effet, c'est Sydney qui est à l'origine de ce mouvement, en lançant la première édition au mois de mars 2007, suivie par San Francisco en octobre de cette même année. L'édition suivante sera la première mondiale, avec 35 pays participants, tandis qu'en cette année 2021, c'est plus de 180 pays qui y ont participé. Ainsi, ce samedi 27 mars, j'espère que vous aussi, vous avez été mobilisés contre le changement climatique.
Ne t'inquiète pas Emma, moi aussi j'ai été mobilisée. J'ai tout éteint, elle aussi a tout éteint. C'est Jeanne avec qui, Emma, tu es allée interviewer Monsieur Michael Bouteilli. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview.
Donc bonjour, nous sommes très heureuses de vous rencontrer aujourd'hui afin de vous poser quelques questions sur votre association ACT. Donc présentez-vous brièvement.
Alors moi c'est Michael Bouteillé, donc je suis le président de ACT, association chalonnaise pour une transition écologique et citoyenne. Et donc c'est une association qui a été créée en 2012 à la suite de l'accident nucléaire à Fukushima. Donc c'était un sujet de base qui a permis de créer cette association. Et qui fait partie encore des préoccupations aujourd'hui, la sûreté nucléaire. Et aujourd'hui, on agit sur beaucoup de volets autour de l'environnement. À la fois, on essaye de faire de la sensibilisation au grand public par des conférences, des ciné-débats. On essaye aussi de porter des projets collectifs à l'échelle de Chalon et du Grand Chalon. En ce moment, on participe à la création d'un tiers-lieu autour du développement durable et de l'économie durable. Et on a aussi initié et participé au lancement et à la création de la première forêt gourmande du Grand Chalon, hein, qui va s'appeler le Bois Gourmand et qui s'implantera à la Maison des Associations. Donc ça, sur un volet plutôt forêt nourricière, pour montrer qu'il y a d'autres possibilités de nourrir la population, ou du moins des solutions alternatives et complémentaires à ce que l'on fait déjà. Et puis on a aussi un gros projet pour septembre, un village des alternatives, donc qui est en fait un concept créé par Alternativa et qui va rassembler donc le week-end du 18 et 19 septembre prochain à Champforgeuil des associations, des producteurs, des conférenciers, des artistes qui ont cette envie de partager un week-end en commun et de montrer les alternatives qui existent sur le territoire autour de la transition écologique au sens large, tant sociale que environnementale.
D'accord. Et du coup, quels sont les temps forts de votre association, des choses que vous avez déjà faites, qui ont beaucoup marqué le tournant de votre association ?
Alors, parmi les actions phares de l'association, il y a eu l'organisation d'une chaîne humaine au budget, donc il y a... en 2013, je crois, qui avait vraiment permis de créer et de tisser du lien entre adhérents de l'association Chalonnais, des Chalonnais en plus, hein, qui avaient été obligés de faire cette chaîne humaine. Il y a aussi eu, assez récemment, en 2019, une grosse marche pour le climat, le 16 mars, 2019, qui avait rassemblé plus de 1400 personnes à Chalon. Donc c'était vraiment une réussite. Ça montrait vraiment qu'il y avait une attente des Chalonnais et des Chalonnaises pour une vraie transition écologique, sociale et humaine dans le territoire. Ça, c'était vraiment marquant. Et puis, plus récemment, donc, l'initiation et la création du Bois Gourmand du Chalonnais, c'est aussi un fait marquant, hein, puisqu'on a permis de lancer une dynamique autour de sujets, d'un sujet, l'alimentation, qui est très important, avec une proposition d'alternative. Et puis prochainement, on espère rapidement... pouvoir créer un tiers-lieu avec d'autres associations locales et le Grand Chalon. Ça sera vraiment un fait marquant si ça réussit à se concrétiser.
D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez des projets futurs ou des choses que vous voudriez développer dans votre association, des aspects plus spécifiques ?
Alors justement, j'en parlais, le tiers-lieu, c'est vraiment quelque chose qui nous importe beaucoup. Donc le tiers-lieu, pour rappeler un petit peu le concept, c'est un lieu qui permet... des tiers-lieux, d'abord, il y en a plein de sortes. C'est-à-dire que tout en soi peut s'appeler tiers-lieu. Si dans un lycée, on inclut une boutique de producteurs locaux et on fait des conférences sur des sujets ou des thématiques, ça peut être une forme de tiers-lieu. Donc un tiers-lieu, c'est vraiment un lieu où on va permettre de faire en sorte que des gens qui ne se rencontreraient pas en temps normal se rencontrent. Ça peut être des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des présidents d'associations, des associations, des conférenciers, des personnes qui ont des projets à faire émerger. Donc ça va permettre vraiment de tisser des liens, de faire rencontrer des acteurs et de potentiellement créer des projets et une dynamique de territoire autour de la transition écologique.
Et si vous aviez un message à faire passer aux jeunes qui s'intéressent à l'écologie, qu'est-ce que vous diriez ?
Je dirais que d'abord c'est un sujet passionnant parce que c'est l'enjeu du 21e siècle. Mm-hmm. C'est un sujet très complexe, donc ça multiplie on a tout à créer, on a beaucoup à créer, on a beaucoup à penser et à imaginer ensemble. Et la jeunesse, elle a vraiment une partie importante à jouer pour l'avenir. Parce que quand on est jeune, on a l'esprit créatif, on a plein d'imagination. Et quand on avance, plus on avance avec l'âge, et plus on a besoin de cette créativité de la jeunesse. Et pour moi, il faut qu'on arrive à impliquer le plus possible les jeunes dans les lycées, dans les collèges, même plutôt à la maternelle, dans les écoles primaires, à essayer de les inclure dans ce processus de sensibilisation et aussi dans le processus d'élaboration de solutions pour demain. Parce que je crois qu'on a tous, une vision des choses et on a tous à échanger là-dessus. Mmh. Donc mon message, c'est non, les jeunes, vous avez largement votre place dans la prise de conscience et dans la prise de décision pour l'avenir et pour demain.
Interview donc enregistrée avant le confinement, vous vous en doutez. On remercie donc Mickaël Bouteilly d'avoir répondu présent à l'appel. Et maintenant, une autre de nos chroniqueuses nous rejoint, ce sera Laurine dans un instant.
La chronique de Laurine Berceau.
Cette fois, c'est la femme que j'ai vue dans la ville et à qui j'ai parlé et qui me parle. Voici ce qu'écrit Rimbaud dans Les déserts de l'amour. Vous me direz pourquoi je parle de Rimbaud ? Tout simplement pour introduire notre chère Laurine Berceau, parce que cette femme, bien sûr, on le sait tous, Rimbaud pensait à Laurine Berceau quand il écrivait ses vers. Et Laurine, elle nous parle d'art, elle nous parle de culture, elle nous parle de théâtre, en mêlant tout ça à l'écologie.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'écologie, elle est présente dans beaucoup de domaines, vraiment. Puisque cette thématique, elle devient de plus en plus importante, en fait, de nos jours. Il peut nous arriver souvent de se poser la question, comment peut-on aider la nature à se relever, à se reconstruire, à renaître, tout simplement ? Alors, certains vont parler de projets politiques ou environnementaux, de débats, de mouvements politiques, de manifestations, etc., etc. Mais... moi, je pencherais plutôt pour une autre forme d'art à laquelle on pense pas souvent, en fait. L'art. Oui, vous avez bien entendu, L'art. Actuellement, on va parler aussi de plus en plus d'art écologique. Alors, l'art écologique, en fait, c'est une forme d'art, mais aussi une pratique artistique, par laquelle on va chercher à préserver les formes de vie, les ressources, et on va agir pour l'écologie, et donc en faveur de la Terre. Tout cela en appliquant, bien sûr, certains principes des écosystèmes aux espèces vivantes et à leur habitat naturel. Mais l'art écologique, ça va aussi nous permettre d'aborder des thématiques différentes et diverses, telles que la politique, l'économie, la culture, l'éthique ou encore l'esthétique. Pour vous donner un exemple concret, récemment en Italie, dans la ville de Tarente, un tout nouveau genre de librairie a été créé et mis en place. Et en fait, c'est une librairie dans laquelle on apporte 10 bouteilles plastiques vides et on peut repartir avec le livre de notre choix totalement gratuitement, en fait. Ecolibreria, c'est une librairie, en fait, qui est très innovante et qui marche très très bien puisqu'elle concilie protection environnementale et culture. Et elle a pu récolter très rapidement une grosse quantité de bouteilles et de bouchons plastiques et a offert en contrepartie beaucoup de livres en tout genre, hein, des romans, des BD, des nouvelles, des essais, des pièces de théâtre, des livres pour enfants, etc. etc. Au niveau littéraire aussi, en 2018, un nouveau prix littéraire a été créé afin de récompenser les romans écologiques. En 2018, donc l'année de sa création, c'était Emmanuel Pagano qui inaugurait ce nouveau prix pour la première fois avec son ouvrage « Sauf Riverain » qui avait été publié l'année d'avant, en 2017. L'année suivante, en 2019, c'est Serge Joncourt qui remporte le prix avec « Chien-loup ». Et enfin, l'année dernière, en 2020, c'est le roman « Nous sommes l'étincelle » de Vincent Villeminot qui remporte le prix. Que ce soit donc la littérature, le cinéma, la musique, la photographie, l'architecture, la sculpture ou encore le théâtre, depuis la nuit des temps, l'art est un des moyens les plus forts pour faire passer un message. Le théâtre, depuis l'Antiquité, en fait, est populaire et regroupe énormément de personnes. Il y a aussi beaucoup d'auteurs qui, depuis peu, décident de parler du problème environnemental auquel nous sommes confrontés. La pièce de théâtre de Jean-Pierre Martinez, « Après nous le déluge », évoque justement cette problématique à travers le voyage de quatre personnages, Paul, Virginie, Alban et Ève, qui vont tenter d'atteindre en fait la planète Y214 afin de reconstruire en fait une nouvelle vie, de repeupler l'espèce humaine sur cette nouvelle planète après que la Terre soit devenue un endroit totalement inhabitable. Hein. Mais c'est pas les seules œuvres, hein, puisqu'il y a aussi d'autres œuvres artistiques qui témoignent de ces problèmes environnementaux et de l'urgence qu'il y a à réagir maintenant si on veut sauver notre planète bleue. On pourra par exemple parler de l'urban street art, qui est un art où les artistes peignent des œuvres sur les murs de la ville, et on peut trouver de plus en plus d'œuvres en éloge à l'environnement, comme par exemple une œuvre signée Banksy qui est apparue le 26 avril 2019 sur un mur de Londres et qui représente une enfant qui est accroupie vers une plante avec une pelle à côté, et elle tient dans sa main un petit bâton avec un cercle dans lequel est dessiné un sablier. Et ce symbole du cercle dans un sablier, en fait, c'est le symbole du mouvement Extinction Rebellion, qui est lui-même à l'origine d'un autre mouvement, qui est le mouvement État d'urgence écologique. Donc, le problème qui pourrait se poser aujourd'hui, suite à tous ces enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, ça peut être le suivant. Comment pouvons-nous agir ? Comment l'art peut-il nous aider ? Je vais prendre ici l'exemple du théâtre. Avec le théâtre, il existe plusieurs moyens divers et très simples à mettre en place afin de sensibiliser le plus de personnes possible à l'écologie, comme une improvisation sur un thème donné ou encore un travail sur une pièce écologique comme celle de Jean-Pierre Martinez dont je vous parlais plus tôt. Mais bien sûr, c'est pas la seule manière d'envisager un travail artistique écologique. On peut faire des jeux de rôle, des exposés, des lectures, etc. etc. En fait, il faut laisser l'imagination prendre les rênes de tout ça, en fait. Alors, toutes ces questions sur les rapports entre l'art et l'écologie, ça peut nous amener à plusieurs interrogations, en fait. À quel degré sommes-nous responsables ? Comment est-ce qu'on peut agir concrètement ? Une citation que j'aime beaucoup et que vous connaissez, j'en suis persuadée, c'est une citation qui vient d'Antoine de Saint-Exupéry. « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous empruntons celle de nos enfants. » Alors cette phrase, ça peut nous permettre à nous motiver à agir et à faire quelque chose pour que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent jouir tout autant que nous jouissons actuellement d'une terre qui se voudrait plus ou moins agréable. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il y a aussi un autre problème. Comment est-ce qu'on peut diffuser ces idées par le théâtre si les salles de spectacle, elles sont fermées ? Alors à cette question, j'y répondrai très simplement. La fermeture des salles n'empêche pas pour autant, et heureusement, l'accès à l'art. Des captations vidéo de pièces de théâtre sont disponibles gratuitement en ligne sur YouTube ou Vimeo, et on peut aussi écouter des pièces radiophoniques sur France Culture, par exemple. On peut aussi lire des pièces de théâtre gratuitement en ligne. Par exemple, la pièce dont je vous parlais plus tôt, là, « Après nous, le déluge » de Jean-Pierre Martinez, elle est en accès libre et gratuit à la lecture sur le site de la Comédiathèque, le site de l'auteur. Alors pour vous convaincre de vous intéresser à l'art écologique, je vais vous proposer de laisser le dernier mot à l'auteur, Jean-Pierre Martinez, qui nous a aimablement autorisé à utiliser son œuvre comme argument principal de cette chronique. Si on s'en sort, à nous de décider si nous ferons à nouveau de cette terre un enfer ou un paradis.
C'est donc sur cette note délicate, et on peut le dire artistique que s'achève notre tout premier numéro dédié à l'écologie, un sujet, on le sait tous, plus qu'important à l'heure actuelle. Alors je tiens à remercier personnellement Madame Mourale, Nathalie Barbery, Madame Moduet, Madame Mazué, Floriane, Madame Marthe, une amie, Louane Saccar, pour avoir prêté sa voix, nos invités, Elisa, Monsieur Schulz et Monsieur Bouteilly, sans oublier nos dévoués chroniqueurs, Laurine, Noémie, Emma, Jeanne, pour leur sujet, et enfin vous, chers auditeurs. Nous espérons que cette émission vous aura plu et vous donnons rendez-vous très prochainement pour un tout nouveau numéro. Laissez-moi juste terminer sur une note légère et délicate, un proverbe africain qui a ce fin mot: si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. De quoi vous faire méditer. Allez, merci à tous et à bientôt.
La Fabrica Podcast du lycée Hilaire de Chardonnay vous a présenté Elle se branche où, la prise de conscience, présenté par Lucas Gansrose-Fernandez.